Regard sur l'actu, le samedi à 11h10, tous les 15 jours sur Radio Sud-Est. Regard sur l'actu, des invités, un décryptage, des commentaires sur l'info, locale, nationale et internationale. Regard sur l'actu, ce samedi à 11h10 sur Radio Sud-Est et rediffusé le dimanche à 12h.
Monsieur Pierre Samo est notre invité aujourd'hui, je vais le saluer. Monsieur Pierre Samo, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à Radio Sud-Est.
Merci, je profite de l'occasion pour saluer toutes les Martiniquaises et les Martiniquais.
Voilà, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous recevons dans les studios de la radio. Vous avez pu profiter de la vue en montant. De toute façon, je pense que vous avez déjà exploré tout le coin, vous avez pu la monter.
C'est presque mon quartier.
C'est ça, exactement.
Oui.
Voilà, donc on va parler un petit peu de vous, monsieur Pierre Samo. C'est vrai qu'on parle beaucoup de vous en ce moment sur les médias, mais moi j'aimerais quand même revenir sur un petit peu sur les débuts. On a appris plein de choses sur vous à travers les médias. Vous êtes quelqu'un d'assez atypique quand même. C'est vrai que peut-être que vous n'étiez pas prédestiné justement à être maire, tout ça. Je pense que vous allez tout nous dire. Vous avez grandi au Lamantin, monsieur Samo?
Je suis né à Fort-de-France par accident. Ma mère était marchande au marché de Fort-de-France. Elle a été jusqu'à la dernière minute, elle a accouché à l'hôpital civil. Et je fus déclaré à Fort-de-France. Mais je suis remonté tout de suite, 8 jours après, j'étais à Gondo chez moi, chez mes parents, oui. Donc, j'ai grandi comme tous les jeunes de mon enfance dans cette génération. Nous n'avions pas eu la vie belle. Et j'étais à la campagne. Mon père était artisan maçon, ma mère était comme tous les gens, travaillait dans les champs de canoyeux, il n'y a pas encore les champs de bananes. Et j'ai même eu l'occasion pour, quand je suis entré à l'école maternelle de Gondo, j'avais 6 ans comme tous les enfants de mon âge, j'ai eu la fièvre typhoïde après, il y a eu une coupure et je suis rentré à l'école, j'avais 9 ans, avec cette rage de vivre, j'ai essayé de porter le maximum à l'école pour sortir de cette situation difficile qu'avait la jeunesse de ma génération. Donc, je suis rentré à l'école à 9 ans, j'ai travaillé dur et je suis arrivé à obtenir mon certificat d'études, j'avais 14 ans.
Le certificat d'études à l'époque, c'était très important. Ça, on pouvait travailler. Hein.
Absolument. Mais j'ai voulu aller beaucoup plus loin. Et j'ai fait des cours complémentaires, 5e, 4e. Arrivé au 3e de cours complémentaires, patatrac, il y a eu un accident. Et donc, je n'ai pas pardonné la direction de l'école à ce moment, parce que c'était une injustice, une des premières injustices que j'ai essuyées. Et donc, j'ai laissé l'école, je suis parti. Et comme j'ai toujours été attiré par le métier du bâtiment, je suis entré en apprentissage, le temps passe très vite,
ouais.
À la gendarmerie du Robert.
Ah bon, à la gendarmerie du Robert. Eh ben bien.
J'avais 19 ans et j'ai travaillé avec une entreprise, je suis arrivé et le patron a voulu absolument que je sorte du lot. Il a voulu faire de moi, c'était Henri Dunon, qui a voulu faire de moi un excellent ouvrier. Et j'ai travaillé dur, et quand il y avait à peine un an, je faisais partie des meilleurs ouvriers de la maison.
J'entends des mots quand vous parlez, monsieur Samo. Vous avez travaillé dur, il fallait travailler dur, c'était important ça.
Il fallait travailler dur à l'époque parce que la délinquance n'avait pas sa place dans cette génération-là. Et c'était un véritable honneur de répondre aux aspirations du moment et de faire plaisir à ses parents. J'ai toujours eu ça en mémoire comme leitmotiv. Et là, à 19 ans, donc, je continue à travailler avec Monsieur Dunon. Nous avons construit la maternité du Robert, les PT du Robert, et voilà. Il me dit, écoutez, jeune homme, je ne veux pas que tu travailles mal, mais il faut absolument que tu entres au bureau avec Feu Alfred Zobda pour entrer dans la... pour faire... de la paperasserie et tout ce que vous voulez. Je lui dis, monsieur Dunon, jeune homme de terre. Il me dit, écoutez, jeune homme, j'ai 47 ans. Si je vous donne ce conseil, c'est pour vous, c'est pas pour moi. Finalement, j'ai essayé. Mais quand il y avait 15 jours,
vous avez dans
le bureau des Obdas, c'était pas mon truc.
Ouais, c'était pas votre truc.
J'ai ouillé dans les brancards et j'ai dit, écoutez, monsieur Dunon, je vous l'ai dit, c'est pas mon truc. Il me dit, ah bon, vous voulez retourner sur le terrain? Je lui dis, oui. C'était la construction de l'hôpital de Colson. Ouais.
Colson, d'accord.
Et je suis arrivé à Colson, et là j'avais quand même un bagage assez intéressant, puisque je suis devenu maîtreur à cette époque. Et ça a très bien marché. Et de là, j'ai voulu voir plus loin. Il y avait la SAT à l'époque, une entreprise métropolitaine qui est arrivée ici. J'ai posé ma candidature, je fus accepté tout de suite. Et de là, je suis devenu chef de chantier. Et la construction de la cité du Vauclin.
Ah ouais.
J'ai travaillé là pendant, jusqu'à la fin. Et puis là, j'ai senti qu'il fallait aller plus loin. Et comme tous les jeunes de mon âge, je suis parti par le Bimidome.
Quel souvenir que vous gardez de votre enfance? C'est vrai que c'était difficile, mais je pense qu'il y a eu quand même des choses qui vous ont marqué, des souvenirs que vous racontez certainement à vos petits-enfants jusqu'à maintenant.
Oui, il y a eu des moments très agréables, très agréables de ma jeunesse. Il n'y avait pas autour de Gondou, mon quartier, il y avait des champs de canne partout. Il n'y avait pas un champ de canne où nous ne faisions pas un trou pour aller manger, nous remplir, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à l'époque, remplir du jus de canne et de revenir. Et aller à la rivière pêcher les écrevisses, tout ça. Et je suis devenu un excellent nageur, parce que chaque, disons, deux ou trois fois par semaine, il y avait un grand bassin, et qu'on appelait chaud d'eau. Et tous les jeunes du quartier, on y allait, on s'y bourrait là-dedans, filles comme garçons. Et là, ça m'a endurci énormément. Et puis, j'avais j'étais un tantinet comédien.
Ah bon?
Et là, je me rappelle, matin, nous avons fait un ballon de football avec un fouille à pain enveloppé, avec du papier enveloppé, puis nous étions en train de jouer au foot, le long de la route. Et cet après-midi-là, je vois un métropolitain qui s'arrête, qui nous regardait. Alors on s'est dit, mais ça, monsieur, il nous a regardé. Et 8 jours après, le même métropolitain revient avec un ballon de football. Ah, c'était la belle histoire. Ah, ouais. Il nous a fait cadeau, il nous a vu, comme on
dit. Et ça date de plus de 30 ans, 40 ans même.
Ça,
et plus que ça.
Ça, plus que ça.
Vous avez une excellente mémoire.
Plus que ça.
Ouais.
Et puis là, nous avons joué au football. Et de là, je parle un petit peu un tantinet comédien, j'ai créé une association théâtrale qui s'appelle L'Évolution. Et tous nous sommes devenus mais nous jouons des pièces, le CID, c'est ce que vous voulez. Et nous avons grandi comme ça, on a travaillé, on a joué à travers la Martinique, tout ça. Ce sont des souvenirs inoubliables.
Quelques noms d'amis qui...
Ah ouais, mais presque tous ils sont morts. Presque
ils sont tous partis déjà.
Il y a des palmistes, il y avait Guy Avenel, il y avait Fernand Avenel, il y avait beaucoup. Et la femme de Guy Avenel, une demoiselle Vincent qui a travaillé avec nous, tout ça. Il y avait... Mais ce sont des anecdotes qu'on n'oublie pas.
Ouais.
Et puis, notre société de football qui est devenue le Green Star, parce qu'à l'époque, j'avais appris quelques bribes d'anglais. Et c'est la raison pour laquelle nous avons appelé notre société Green Star, et qui s'est transformée en la société de handball de la Martinique, du Lamantin, de Gondo particulièrement, qui a fêté ses 40 ans il n'y a pas bien longtemps là, l'étoile de Gondo. Et puis, là, j'ai grandi, je suis parti à Paris, comme je vous disais tout à l'heure. J'ai formé, je me suis formé beaucoup plus solidement sur le plan professionnel. J'ai amorcé mon tour de France de compagnonnage. Et puis, je suis sorti major de ma promotion après un an de formation professionnelle. Et là, j'avais connu ma femme à Martinique avant de partir. Et quand je suis entré... à Paris, je suis monté à Paris parce que la formation professionnelle se faisait dans les Basses-Pyrénées. Je suis monté à Paris, donc j'ai rencontré ma payse et je me suis promené un mois durant, tout le mois d'août, et patatrac, je suis parti. J'avais à peine fait une demi-journée de marche, j'avais trouvé une entreprise où j'ai travaillé pendant 9 ans.
Ouais.
Pendant 9 ans.
À peine, ouais.
Pendant 9 ans. Et puis après, je me suis marié, j'ai eu 2 enfants, Corinne et Patricia. Et en 1971, j'ai décidé de rentrer à la Martinique. Donc, je suis rentré.
Avec quelle idée en tête, justement?
Avec l'idée de créer mon entreprise. J'ai créé mon entreprise, effectivement, en arrivant. J'ai construit des villas, des immeubles. Ouais. J'ai travaillé pour la commune du Lamantin en tant qu'entreprise, etc. Ce fut un moment agréable, parce qu'à l'époque, il y avait le respect de l'autre. Et l'entraide aussi existait. Il n'y avait pas cette grève, ces grèves que nous connaissons aujourd'hui. Mm-hmm. Les gens travaillaient dans de très bonnes conditions, en se respectant. Et même des fois, devant certaines difficultés, on s'entraidait.
Donc c'était un petit peu plus familial, un petit peu, cette manière de travailler.
Ouais. Absolument. On pouvait considérer à l'époque l'entreprise artisanale comme une entreprise familiale. Et j'ai eu beaucoup d'amis du monde Pitot, d'ailleurs, qui ont travaillé avec moi, qui existent toujours. Et là, un matin, je rencontre un collègue que je connaissais à peine. Il me dit, ça te dirait de venir avec nous au syndicat des maçons et métiers connexes, que je ne connaissais même pas. Bah, je lui dis, mais oui, ça semble m'intéresser. Et ce samedi matin-là, je vais à la zone artisanale de la Dillon. Il y avait beaucoup, beaucoup d'artisans. Ce n'était pas la zone commerciale comme maintenant, c'est la zone artisanale. Il y avait des entreprises qui étaient sur place, qui avaient leur bureau, tout ça. Et je suis invité à cette réunion des artisans ce samedi matin-là. J'arrive à 9h, il me présente devant tout le monde, et puis je m'assieds, puis j'écoute. Il y avait beaucoup d'enthousiasme, mais nous connaissons la Guaye martiniquaise. Il y avait des gens qui se disaient qui s'envoyaient, se lançaient des pics, etc. Mmh. Je regardais tout ça, j'étais pas tellement habitué à ça. Et vers 11h30, le collègue en question, pour ne pas le nommer Aglaé, et il me dit, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots? Donc je salue tout le monde, et je m'exprime, je leur dis un peu comment je voyais le bâtiment, l'organisation et tout ça. Et à midi, j'étais secrétaire du syndicat.
D'accord, juste après le discours.
Après le discours.
Un discours que vous n'avez pas préparé, parce que vous ne l'attendiez pas.
Parce que moi, je suis très observateur. Il y a quelque chose qui est important pour un chef d'entreprise, quel qu'il soit, c'est le pouvoir d'écoute. Il faut savoir écouter. Et il faut savoir aussi accepter les critiques. Parce que nul n'est la copie de l'autre. Et chacun essaie d'apporter sa contribution. Et j'ai apporté la mienne. Et je suis entré au syndicat, ça se faisait en 1974, si j'ai bonne mémoire, 74.
Ah ouais.
Puis là, c'était le début de la chambre de métier de la Martinique. Il y avait le Père Lureux qui avait succédé à un autre artisan martiniquais de renom. Et là, je me suis présenté aux élections avec une équipe. J'ai été élu à la chambre de métier. Le poste qui m'a été offert à l'époque, c'était un poste de secrétariat avec le Père Lureux.
Jusqu'à là, dans votre tête, il n'y a pas encore l'ambition de politique?
Non, pas du tout. Je vais vous dire comment je suis arrivé. Donc, je me voilà avec le Père Lureux, nous partons à Paris. C'était Simone Veil à l'époque qui s'occupait de certain nombre de choses.
Ouais.
Et puis 1977, parce que les présidences se succédaient tous les 3 ans. Et 1977, tous les collègues m'ont dit, écoute Samo, on t'a suivi, si je ferais un bon président de chambre de métier, je dis, mais qu'est-ce que c'est? Je dis, non, c'est toi que nous voulons, et le PLU s'en est fâché. D'ailleurs, nous sommes restés beaucoup de temps, très longtemps,
un peu en froid.
Et je suis élu magistralement président de chambre de métier. Alors là, c'est nouveau pour moi. Je dois dire, il y a une anecdote. J'étais membre du comité central du Parti communiste martiniquais.
Ouais.
Et ce jour-là, il y a une journaliste, une dame, je ne vais pas la nommer, qui me dit, Monsieur le maire, vous êtes membre du Parti communiste et vous êtes président de la Chambre de métiers. Comment voyez-vous ça? J'ai dit, écoutez-moi, madame, vous n'avez pas devant vous là un membre du comité central du Parti communiste martiniquais. Vous avez le président de la Chambre de métiers de la Martinique, voulu par les artisans. Là, elle s'est un peu quelque peu esclaffée. Et puis là, j'ai commencé à travailler à la Chambre de métiers. J'arrive à Paris, il y avait 102 présidents de Chambre de métiers à l'époque, qui arrivent avec le secrétaire général, avec le personnel, et nous sommes dans une salle où il y a environ 300-350 personnes. Alors il y avait la Chambre de métiers de la Martinique, il y avait celle de la Guadeloupe, celle de la Réunion, les autres sont venus après. Nous arrivons pendant 2-3 jours, nous assistons, mais c'est pour moi c'était magnifique, extraordinaire. J'apprenais le métier de président.
Ouais.
Et puis, le président de la Chambre de métiers de la Guyane fait son petit speech, la Guadeloupe son speech, la Réunion son speech, et j'arrive là comme un grand bouillon, et nous assistons pendant 3 jours, plein de personnes. Au moment où les présidents de chambre de métier du département de Tourmé arrivent le 3e jour, on dit d'un pas 50 personnes, pas 50 monde. On dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc, Je suis reparti en Martinique et j'ai réfléchi longtemps et j'avais un vieil ami, d'ailleurs, qui m'a décoré de l'ordre national du mérite qui m'a été offert à l'époque, que j'ai refusé, mais pour des raisons, enfin bref, je vais vous dire ça tout à l'heure. Et je lui ai dit, c'était Clovis Beauregard, qui était connu dans la Caraïbe. Je lui ai dit, mon cher ami, voilà, je lui explique les péripéties, nous travaillons pendant 3 jours devant une foule, et puis nous arrivons là comme des couillons. Est-ce que, de la même manière que tu as créé la commission permanente des chambres de commerce, est-ce qu'on pourrait pas créer la commission permanente des chambres de métiers de la Martinique? Il me dit, mon cher ami, qu'à cela ne tienne.
Ah bon.
Et pendant 2 jours, nous nous sommes trouvés dans un hôtel. On a travaillé avec quelques amis de la chambre de métiers de la Martinique. Nous avons travaillé. Et voilà, après, disons, 2 mois de travail, nous avons créé la commission permanente des chambres de métiers des départements d'outre-mer.
Ah.
Mais ça ne devait pas s'arrêter là, parce qu'il fallait absolument que je fédère les chambres de métiers que j'ai citées tout à l'heure.
Mm-hmm.
Mais pour cela, il fallait arriver à Paris 2 jours avant l'assemblée permanente. Nous sommes arrivés, on a discuté, on a, à la limite, je dirais même, on a bataillé un petit peu, parce que chacun voulait faire valoir
ses avis. Ouais.
Et finalement, avec intelligence, nous nous sommes mis d'accord pour travailler ensemble autour de cette commission permanente des chambres de métiers. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a pas un tel qui va dire ceci, un tel qui va dire cela. Nous travaillons. Il y a un pot commun, et puis il y a un qui présente cela. Et je fus nommé secrétaire de cette commission permanente. Et c'est moi qui présente la première commission. Et c'est la même période, il y a la soufrière en Guadeloupe qui a explosé. Les artisans guadeloupéens ont perdu presque ce qu'ils avaient. Ils étaient aux abois. Donc, j'ai ce dossier-là. Et j'arrive, comme d'habitude, 200, 300 personnes. La commission des départements d'outre-mer passe le dernier jour. Fier comme un tabac, j'ai mon dossier, puis j'arrive.
Mmh.
J'arrive là, il y a à peine 50 personnes qui fument sa pipe, qui lit son journal. Le président Francis Combe, à l'époque, me dit, collègue Samo, je monte les escaliers, j'arrive à la tribune, je dépose mon dossier. Je lui dis, président, pendant 3 jours, nous avons travaillé, nous avons écouté les collègues des chambres de métiers de France et de Navarre. Aujourd'hui, je dois présenter le dossier des chambres de métiers du département d'outre-mer, où nos amis guadeloupéens ont subi perte. Ils sont dans le plus grand désarroi. Je présente ça devant une foule, une salle vide. À ce moment-là, on sent les journaux qu'on dépose.
On les dépose.
La pipe qui sort.
Et puis tiens, il y a un truc qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe.
Là. Ouais, ouais. Et puis je présente la commission des chambres des métiers du département d'outre-mer. Et je le fais avec maestra parce que je suis quelque peu provocateur quand il faut.
Mmh.
Et à partir de ce jour, la commission des chambres des métiers du département de Tourmer était présentée le premier jour. Je crois que nous avons gagné.
Ouais.
Nous avons gagné. Et j'ai voulu absolument que l'artisanat martiniquais soit pris en considération. Et à l'époque, je ne cesserai de le répéter, nous étions dans un petit hôtel en face de la préfecture. Il n'y avait presque pas suffisamment de pièces pour que nous travaillions dans les bonnes conditions. À ce moment-là, j'ai dit, à l'image de la Chambre de commerce, à l'image de la Chambre d'agriculture, pourquoi l'artisanat martiniquais ne peut pas avoir aussi son siège? Feu Émile Maurice était président du Conseil général. Je vais le trouver pour discuter avec lui, mais c'était un anticommuniste viscéral. Il ne m'a presque pas écouté. Et il avait un de ses adjoints, qui était M. Joseph Catherine, aussi grand que moi. En taille, hein?
En taille.
Donc, il était adjoint au maire de la ville de Sainte-Marie avec M. Camille Petit. Et il me dit, mon jeune ami, écoute-moi, je vais plaider ta cause. Il a été voir le président Maurice, finalement, Il a obtenu qu'on nous cède gratuitement un terrain à Montartenson, où se trouve la chambre de métier aujourd'hui.
Ouais.
Et j'avais gagné. Et j'ai travaillé avec des artisans. Quand je suis arrivé, il y avait 3500 artisans. J'ai laissé la chambre avec 6000 ses artisans.
Ah ouais.
Il y avait 62 apprentis. J'ai laissé à mon départ avec 2000 apprentis. Et pour Pompey, nous avons construit le centre d'apprentis de Rivière-Salée sous l'égide du maire Elisabeth. Et voilà, après 3 mandats de chambre de métier, je décide de partir.
Et voilà, comme ça, pas, d'un coup de tête.
Oui, je décide de partir. J'ai décidé de partir parce que c'est toujours pareil comme, on va parler tout à l'heure comme mon passage à la mairie de la Montagne. J'ai décidé de partir et, on me propose d'être chevalier de l'Ordre National du Mérite. Bon, je dis non, mais c'est pas là. Bon. Et, il y avait un monsieur, Félix Hubert, un commerçant bâtisseur, qui était avec moi à la chambre de métier, qui me vénérait de ma façon d'être. Il a fait la démarche, il a présenté le dossier pour que je sois fait chevalier de l'Ordre National du Mérite. Devant mon refus, il me dit, jeune homme, ne me fais pas ça. J'ai travaillé pour toi, ne me fais pas ça. Et j'ai eu tellement de respect pour lui que j'ai accepté d'être chevalier de l'Ordre National du Mérite. Et c'est Clovis Beauregard qui avait créé avec moi la commission permanente de chambre de métier qui a été mon parrain, qui m'a décoré de l'Ordre National du Mérite. Voilà un parcours, jusque-là, sans embûche, calme, tranquille, ouais. Et je fus reconnu dans le monde professionnel comme un garçon sérieux. Et voilà, je laisse la chambre de métier. Mes enfants faisaient des études, ma femme s'en est occupée. Et là, il fallait absolument parce que quand vous êtes président de chambre de métier, vous ne gagnez pas d'argent. Vous en perdez bien au contraire. J'avais même pas de voiture de fonction, il y avait rien du tout. Je gagnais, je crois, 1250 francs.
Ouais, en francs, ouais.
Grand chose. Et j'ai monté mon entreprise, j'ai travaillé, comme d'habitude, un peu partout dans l'Antinique, à Fort-de-France, à Saint-Joseph, au François. Et les 54 logements du François qui se trouvent derrière, n'est-ce pas, c'est moi qui ai travaillé là.
Ah, c'est vous qui avez travaillé là, d'accord.
Nous avons travaillé dans de très bonnes conditions. Et puis là, avec mon épouse, un après-midi, nous étions au Lamantin, nous déambulons dans les rues du Lamantin, etc., ne voilà-t-il pas que dans l'après-midi, il y avait une manifestation sur la place Mao. Il y avait le laja, il y avait de la danse, il y avait tout ce que vous voulez. Et vers 19h, avec mon épouse, j'étais entré, il y avait une préoccupation, je dirais, culturelle. Nous assistons avec attention, ma femme et moi. Et voilà qu'il y a quelqu'un qui s'assied sur le dossier de mon siège. C'est une chose que je n'oublierai jamais.
Ah bon.
Jamais. Qu'est-ce qui s'assied là? Pierre Zobdakitman. Il était adjoint au maire Lamantin. Et à cette époque-là, j'avais 53 ans. Il s'assied à côté de moi. Et puis il me dit, parce que je m'appelle Samo, mais beaucoup de personnes à l'époque du temps de mon père, c'est Samote. Samote, comment vas-tu? Je le regarde, je lui dis, ça va. Et c'est un homme que j'avais toujours en admiration, de par sa façon d'être, sa gouaille, le respect de l'autre, etc. Bref. Et puis il me dit, écoute-moi, Samote, je suis premier adjoint à la mairie du Lamantin. Gratien, pas aimé moins. C'est moi qui est premier adjoint, c'est deuxième adjoint qui a fait toute bagaille. Faut que ça change. Est-ce que tu pourras me donner un coup de main? Bon, je dis, mais de toute façon. Et n'oubliez pas que je vous ai dit, je l'avais en admiration. Il me dit, bon, je pars à Paris, et quand je reviens, nous allons mettre en route pour les élections de 1989. Je dis, ok. Patatrac, il part à Paris, il meurt. Il meurt. J'apprends ça un vendredi matin, il devait être 5h30, par un vieil ami d'ailleurs, qui m'a beaucoup aidé, Emmanuel Chérubin. Il me dit, tu sais que Zobda est mort. Mais il m'appelait papa. Il a l'âge de mon père. Hein, il m'appelait toujours papa, que c'était un petit papa. Il faut que ce soit toi qui remplace Zobda sur le deuxième canton. Parce qu'il était sur le deuxième canton de mon quartier, Gondo, Gondo Palmis, Californie, Basse-Gondo, etc. Moi, conseiller général, il me dit oui. Et puis après, plusieurs personnes m'ont appelé. Et finalement, j'ai accepté.
Quand on suit un petit peu votre parcours, à chaque fois on est venu vous chercher.
Oui.
Ah ouais.
Ça paraît loin.
Ouais, c'est vrai.
Ça,
ouais, ouais.
Ça. Et, mais malgré tout, c'est un parcours atypique, semé d'embûches, même de trahison. Mais combien exaltant.
Exaltant. Avec du recul, vous dites.
Ben oui, avec du recul.
Je suppose.
Je vais entrer dedans. Et c'est pourquoi je vous dis, en préambule, je vous dis tout ça.
D'accord.
Bref, je suis élu avec la majorité que Piozop Dakitman n'a pas eu sur le canton. Et voilà conseiller général du Lamontagne. Très mal perçu, très mal reçu, mais ça, j'ai continué à travailler. Et au conseil général à l'époque, où le fait Émile Maurice était président, il a vu mes capacités, ce que je pouvais faire. Il m'a demandé si je voulais faire partie de son équipe, particulièrement avec le shérif du Marigot.
Ouais, ouais.
Et il y avait Jean Marant et compagnie. Ils ont vu mes facultés, ma façon d'être et mon pouvoir d'écoute. Jamais avec ces personnes. Et là, je suis entré dans son équipe, je suis devenu président du FIUT pendant des années. Mmh. Sur les routes, les lycées et compagnie. Et puis, là, 1989, Gratian décide de passer la main. Mais pas à Pierre Samour. Et là, des amis sont venus me voir, et ils m'ont sollicité et pour être candidat aux prochaines élections. J'essaie de voir mon parcours, j'avais rien d'un gestionnaire d'une commune, quelque chose comme ça. Les gens ont insisté, et finalement, la décision a été prise, et parmi les candidats qu'il y avait là, vous savez, à l'époque, les communistes avaient des cellules partout.
Ouais.
Les cellules se sont réunies, et puis il y a un choix qui a été fait, et je fus choisi pour être candidat aux élections de 1989. Maman,
c'est là que ça commence.
Mais moi, sereinement, sans passion particulière, moi je me disais, si ça passe, ça passe, parce que je n'avais pas la vocation d'être maire. Il faut dire que Georges Gratian, écrivain, avocat, tout ce que vous voulez, qu'est-ce que je vais foutre là
Et
finalement, la population a voulu, et c'est là que je dis souvent, j'ai tiré une sacrée leçon dans cette affaire par le choix du peuple. Il y avait des intellectuels qui étaient là, il y en a qui ont fait leur preuve, etc. Je ne jette la pierre à personne, et le peuple a choisi le maçon. Et lorsque j'ai commencé à travailler dans les campagnes, etc., on a entendu le dicton dire, va-t-on ouvrir les portes de la mairie de la montagne imposée de briques.
Ouais.
Mais ça ne m'a pas choqué. Ça ne m'a pas choqué du tout.
C'est ça qu'on disait à l'époque.
La bêtise humaine. Mais je vous dis, en aparté, ma capote est tellement bien, il n'y a pas jamais de voir les pieds personne. Bref. Et la campagne électorale bat son plein. Je suis élu avec la majorité qu'aucun mairie de la montagne n'avait eue. Et j'entre à la mairie du Lamontin.
Près de 84%, c'est ça, un petit peu plus.
Voilà. Ouais. J'entre à la mairie du Lamontin, mais personne, enfin, à part la population, l'intelligentsia municipale qui était sur place, disait, lui, il va pas rester longtemps, ça.
Donc on...
Il va pas rester longtemps.
On pensait pas que vous alliez rester aussi longtemps.
Ouais. Et il savait pas que j'étais un battant, j'avais une vision des choses. Et la bêtise humaine, je m'arrêtais pas à la bêtise humaine.
Ça se passait comment les campagnes à l'époque? C'était aussi violent que maintenant?
Non! C'était plutôt bon enfant. C'est que on se disait de quelques bêtises, mais il n'y avait pas d'attaque, il n'y avait pas ce genre de choses-là. Moi, j'ai pas connu ça. Parce que quand je me déplaçais, c'était des personnes par centaines, par milliers qui se déplaçaient. Bon, et là, je faisais 3 conférences par soir à l'époque. Quand vous rendez compte,
3 conférences
par soir, et dans des lieux tout à fait différents, opposés. Donc finalement, le résultat était ce qu'il était. Donc, mais voilà, mais au Lamontin. Et je trouve l'appareil de gestion de Gratian sur place, dont l'ancien président du club franciscain, et il y avait un certain nombre de personnes qui étaient là. Mais ils se sont dit, ce type-là, donc il faisait annuler, oui. Donc, il me connaissait très mal d'ailleurs. Donc, n'ayant jamais géré une commune sur le plan politique, je suis parti à Paris pour ma formation. J'ai commencé à travailler. Mais tout en travaillant avec ceux, l'ancienne équipe de Georges Gratian, parce qu'il y avait quelques-uns qui étaient là, j'ai senti que,
ils n'étaient pas motivés.
Non. Ouais. Et là, j'ai commencé à prendre un certain nombre de mesures. Un certain nombre de mesures parce que j'ai une responsabilité. Je suis très orgueilleux. Très orgueilleux. Et je ne veux pas commettre d'erreur pour que les gens qui m'ont élu soient mécontents, insatisfaits de mon travail. Je me suis mis au boulot. Je suis entré donc dans certains dossiers. J'ai dit hop, 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 hop. Il faut faire très attention parce que là, mais ça, parce que pendant les deux dernières années de Georges Goassien, il n'avait pas la même mission sur la mission. Mm-hmm. C'était donc ceux qui étaient là.
C'était
là,
autour de lui qui gérait plus ou moins.
Ouais. Un peu tout. Voilà. Et quand j'ai mis le nez dedans, j'ai dit qu'il fallait prendre un certain nombre de mesures. J'ai commencé tout d'abord parce que il y avait des manifestations qui se faisaient au foyer de la Princesse, donc la montagne. Personne ne déboussait. J'ai arrêté tout ça. Là, je commençais à devenir la bête noire qu'il faut détruire. Mm-hmm. Qu'il faut détruire.
Et ça se manifestait comment?
Ah là, mais on va y arriver. Bon, je pars à Paris dans un congrès. Et je reviens, ça se passe 1990, début 91. J'arrive à l'aéroport. Mon chauffeur vient me rencontrer, il prend mes bagages, et puis je suis pressé de rentrer, parce qu'une semaine, j'ai besoin de voir mes enfants.
Ouais, ouais.
Le type vient me dire, mais importuné, selon moi. Il me dit, monsieur le maire, moi, besoin de voir. Mon cas dit, vous jamais, non, je viens d'arriver à l'instant. Monsieur le maire, moi, d'où mon besoin de voir? Mon cas dit, merci, monsieur le maire, faut que moi, vous soyez, parce que moi, je peux pas y dormir. Alors, effectivement, devant tant d'insistance, mon cas, allez, est-ce que tu es, monsieur le maire? Mon cas, dans un match, au François, les matelas finis, nous deux soit camarades allez ouais, président. Nous demandons qui menait sa capacité, puis nouveau maire. Et me les bouddha avec le plus grand mépris dit, nous m'en tenions, mais. Mais pouvoir là, c'est moi qui n'ai. Samo, moi mettant un t-shirt bain, qui a fait ça moi les pays. Quand t'as pour Henri Bourgeois son premier adieu, c'est des chaussettes moi qui un pied moins. Vous allez dormir avec ça, monsieur? Je suis rentré chez moi. J'ai pas dormi la nuit. Mm-hmm. Le lendemain matin, à 7h, je suis arrivé chez Henri Bourgeois, qui était à Jeanne d'Arc, mon premier adjoint. Nous avons l'habitude de prendre notre petite l'absinthe le matin, ouais. Comme l'habitude du café. Il appelle sa fille, il prépare. Je lui dis non, Henri. Avant nous, pour l'absinthe, là, je tiens à te dire ceci. À partir de ce matin-là, je n'ai plus de directeur général. Il me dit, mais non, qui ça? Alors, je lui explique. Il me mène au bout de la bêtise. Il dit, mon vieux, ouais, c'est vous qui me... Il m'a dit, Henri, à partir de ce moment, je n'ai plus de secrétaire général. Quand ça a fait du bruit, vous savez que j'ai travaillé avec la BNP au Lamantin. Comme toute entreprise, on a quelques petites difficultés. Et j'avais un petit dépassement à la BNP que j'avais renvoyé pour renflouer tout ça. Mmh. Depuis des années, je travaillais avec la BNP. Tous mes dossiers arrivaient chez moi à Gondo. Et à partir du moment que j'ai pris la décision de me séparer du secrétaire général, ne voilà-t-il pas que un de ces dossiers arrive à la mairie. Et le directeur de la BNP à ce moment-là, c'est un bon copain au secrétaire général. Mon dossier arrive. Il a bien salé ça. Si je n'ai pas remboursé dans tant de temps, ils vont m'enlever mon chéquier. Alors, on m'envoie le courrier ouvert par erreur. Mais de 6 mois, pas jamais, il veut la mairie.
Ouais.
Donc, et dans les 24 heures, presque tous les élus avaient la menace de la BNP
pour
m'enlever mon chéquier. Tout ce qu'il avait ça en main. Et il leur disait, il ne pourra plus gérer la mairie de Lamantin, il faut que vous fassiez de telle sorte que nous n'ayons pas cet individu à la mairie. Ah, mon vieux. Mettez-moi au boulot. Et puis, il m'a commencé à nettoyer les élus. Il a commencé à nettoyer tout le bagage. Enfin, bref.
Avec compréhension.
Avec compréhension, mais sans passion. Parce que je suis un individu qui respecte l'autre. Je n'ai pas d'ennemis politiques. Je les connais tous. Je n'ai pas d'ennemis politiques. Parce qu'un homme qui est élu, et comme je répète toujours, je répéterai encore, un homme qui est élu, il ne s'est pas autoproclamé ni maire ni président. Il y a un peuple derrière. Il faut respecter le peuple. Et ce peuple-là, qui a choisi l'individu, s'il n'est pas satisfait, il faut autre chose. C'est ça, c'est ma politique. Donc, je suis arrivé, j'ai nettoyé, j'ai remis en place mon conseil municipal. Et nous sommes mis à travailler. Et tout au long de ce parcours, j'ai innové. J'ai innové énormément parce que nous avons été la première commune de la Martinique à créer un projet de ville, projet de développement, et projet d'urbanisme. Mm-hmm. Nous avons travaillé cette fois-ci.
Et là, vous aviez les compétences hein, oui. pour faire ce genre de choses. Ah,
il faut ouais. avoir de... On peut avoir tous les diplômes du monde et ne pas avoir cette vision-là.
C'est ça.
Parce que l'homme naît avec son intelligence. Si tu as la possibilité, je respecte cela. Parce que c'est des intellectuels, on en a besoin. Bien sûr. Mais ceux qui ne l'ont pas, ils ont peut-être une intelligence développée, puis ils voient les choses d'une certaine manière. Mais ils sont souvent très mal vus. Bref, et là, lorsque j'ai vu cette affaire-là, je me suis dit, bon, le Lamantin, nous avons une population qui vit dans la mangrove, dans des cloaques. Il faut absolument développer la périphérie de la ville.
Là, on était en quelle année à peu près ?
On était là en 1994. Mm-hmm. Et là, 94, les passionnés, les anti-Samo, ont fait de telle sorte que je passe 33 jours dans les geôles de la République.
Ah bon, ce sont les mêmes que, vous avez écartés un
voilà,
moment.
Voilà, ce sont les mêmes avec une passion particulière. Me voilà en prison pendant 33 jours. Demandez-moi pourquoi, j'en sais rien du tout. Bon, finalement, de Guerlas, devant l'épreuve, personne ne voulait rien entendre parce que le mot était donné. Il ne fallait pas que Samo soit réélu en 1995.
Mais il y avait une mafia quand même à l'époque, si on imagine bien.
Écoutez, je vous dis tout à l'heure. Donc, j'arrive en confrontation. On me demande de m'habiller ou aller en confrontation. On dit que je suis élégant, je ne sais pas si c'est vrai. Moi, je me suis arrangé comme il faut. Et j'arrive sur le pas perdu. Je vois, je n'aime pas tellement ces termes-là. Mais pour, à l'époque, je me permets de le dire, je vois un vieux blanc qui est là. J'ai dit, mettez-lui les menottes. Oh ! Les gardiens de prison, ils disent, mais c'est quoi ça ? Ce n'est pas un criminel, il n'a rien à faire, lui approche. Il n'y a même pas encore de débat. Alors le gars qui me dit, monsieur Samo, pourquoi il mettait les menottes là-bas, pourquoi il mettait les vestants là ? Il m'a dit non. Il m'a ajusté quoi, votre moelle ? Il m'a allé devant vieux blanc, il m'a dit, mettez-moi les menottes, monsieur. Il tournait deux et puis il oui. Alors, c'est le gardien de prison, regarde, mais monsieur Samo, nous sommes sous ordre. Il m'a dit, mais non, mettez menottes.
Fait travail, vous, hein. Le, ouais.
Bon, au palais de justice. Il y avait tous les avocats qui étaient là. Je peux les nommer tous. Il y avait mes avocats, il y avait les bâtonniers aussi, lui. La Philippe et de Montmariette. Il y avait Maître André Jacoulet. Et il y avait l'avocat des adversaires. Et puis l'avocat de Chérubin, Maître Henri Michaud. Donc le débat est ouvert. Les adversaires m'ont considéré ces chiens écapissés. Je démontre les uns après les autres les arguments. Le juge était vexé. Il faisait tout pour en bastiller. Le mot senti, les avocats, là, qu'a fait travailler. Mais c'est du sang qui coule là. Hein. M'a mis témoin au bout de flop. M'a dit, monsieur le juge, je ne vous connais pas. Je ne cherche pas à vous connaître. Sachez que moi, Pierre Samo, j'ai jamais baissé les yeux devant personne. Je n'ai jamais rasé des murs ni changé de trottoir. Et je peux me permettre de dire ce que je veux devant n'importe où, n'importe qui, sans qu'on ait à me dire. Ferme ta gueule, rappelle-toi, souviens-t'en. Mais là, vini rouge comme un tomate.
C'est vini rouge, mais on va imaginer couler.
Oui. D'accord. Et à la fin de la confrontation, un de mes avocats me dit, Pierre, tu n'aurais pas dû parce que tu viens de te faire condamner. Je dis non, jamais. Et puis, j'ai subi des péripéties, des va-et-vient, etc., toujours en prison. Mais j'avais certains privilèges des gardiens de prison qui me connaissaient, enfin certains me connaissaient. Mais ce qui m'a vraiment ému, c'est qu'un matin, il y avait quelqu'un qui frappait sur la porte de ma geôle, ma cellule. Le gardien qui avait eu égard à moi ouvre la porte. Qu'est-ce que je vois ? Des jeunes de fou à chaud, des délinquants de fou à chaud, qui arrivent avec un plateau, du sucre, du pain, des fruits, du beurre.
Ouais, les jeunes, ce qu'on appelait à l'époque les voyous, si on veut dire.
Monsieur, laissez tout bouger, ça.
Ouais, ça casse et boire.
Ouais. M'a dit, je ne suis pas perdu.
Ouais.
Et là, j'ai demandé à Philippe Edmond-Marie de m'emmener le livre de Nelson Mandela, Un long chemin vers la liberté. Et puis, péripétie en péripétie, finalement, ils n'ont rien trouvé, un dossier vide, il n'y a rien. L'essentiel, c'était de m'empêcher de retourner en 1995 pour ne pas continuer à déblayer les choses.
De salir votre image.
Voilà. Bien. Finalement, après 33 jours, l'huissier de justice, le procureur, demande de me libérer. Mais l'affaire va suivre son cours. Mm-hmm. Philippe Edmond-Mariette apporte le papier pour le juge Gouéfon, qui s'appelait avec un œil de travers. Là. Il lui dit, monsieur le juge, voilà la libération de monsieur Samo. Il lui dit, mais non, maître, monsieur Samo sera libéré demain matin, vous n'avez pas besoin, mais non, maître. Puis, il croise le papier, il fout ça à la poubelle.
Ouais.
Mais on s'en beau béni. Le téléphone sonne, claque, il a fait ça, puis il fait ça. Philippe Edmond-Mariette, mon papier, il a vous ne pas choisir oublier. Il me dit. Le lendemain matin, à 9h, il va voir le juge Gouéfon pour lui dire, je suis venu pour la libération de M. Samo. Il lui répond avec arrogance, M. Samo ne sera pas libéré. Il dit, dans ce cas, M. le juge, vous m'enfermeriez avec M. Samo. Comment? Quoi? Je vous ai dit que vous m'enfermeriez avec M. Samo. Et il sort le papier qu'il avait froissé. Il dit, bon. Voilà la passion, M. Samo sera libéré, mais avec les autres, hein. Les autres servaient d'alibi, tout simplement. Et me voilà sorti de prison. Mais il n'arrête pas là son truc. Il invite la presse. Un bout, on va sortir de la prison, etc. Toute la presse. Vous savez, vous connaissez la passion des journalistes qui n'ont eu
simplement
à faire. Salut un individu, ouais. C'est important, là. Je vois sur le manche, Samo veut être meilleur. Bref, je me suis toujours montré au-dessus de ça, mes chers amis. Ce n'est pas de la fierté, je ne sais pas, mais c'est un sentiment que je partage avec beaucoup d'autres. Mm-hmm. Quand il y a un mépris, une saloperie qui sort, je regarde d'où ça vient. Ouais. Parce que si je tombe, je réponds, je suis aussi bête, aussi idiot que vous. Mm-hmm. Alors je continue comme ça, jusqu'à la date d'aujourd'hui. Et puis après avoir travaillé, j'ai fait un deuxième projet de ville. Dans ce deuxième projet de ville, la population était, il y a plus de 350 personnes qui ont participé. Et là, j'ai continué donc à mon deuxième mandat, 1995, où j'ai été le maire, le musée de Français de Navarre. Plus de 80% d'eux.
Donc, après tout ça,
après tout ça, parce que la Martinique était brûlée, c'est des milliers de personnes qui se déplaçaient à chaque fois à l'occasion de se présenter.
Jusqu'aujourd'hui, vous en tenez rancune à ces personnes?
Non, jamais.
Jamais.
Et nous allons voir, je vais vous faire voir quelque chose. Lorsque, je fais un petit retour en arrière.
Ouais.
Lorsque je suis enfermé dans les jaunes de la République, et une quinzaine de jours après, le gardien de prison me dit, monsieur Samo, vous savez qui on a enfermé? Il m'a dit non, le secrétaire de mairie de la Montagne, le Femmeigne. Il m'a dit, ah bon? Je joue après, mais quand on a mon cacouillant, moi, il faut me faire le cacouillant, moi, il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est? Il m'a dit, monsieur Samo, la femme du secrétaire général, il fait, mais là, oui. Il m'a dit, mais là, c'est. Parce que le juge, il y avait un juge, il s'appelait le juge Plantier, qui avait un dossier, et il attendait l'occasion de sévir. Bref. Et ce matin, un matin, je vais à l'infirmerie, puisque je suis un peu diabétique, et je vois le secrétaire général assis, là, il me regarde, sans aucune joie, comment vas-tu? Je suis passé, et au moment de sortir, je ne le vois pas, je fais ça, et je le vois derrière la porte, il me dit, monsieur Samo, vous croyez qu'on avait besoin d'arriver là? Il dit, bon courage.
Ouais. Comme ça.
Comme ça, je suis parti. Et je vous dis, je n'en veux à personne, parce que la bêtise humaine, quel que soit le pays où vous y allez, elle existe toujours. Et si, dans cette vie très courte que nous avons, vous vous arrêtez à chaque fois qu'il y a une accroix, à chaque fois qu'il y a une bêtise, vous me dites, M. Samo, vous ne faites pas 84 ans. Et si je m'attendais à m'arrêter à tous ces genres de choses-là, Mais non, on dirait au dernier moment.
Et donc, ouais, il ne reste pas beaucoup de temps, Monsieur Samo. Ouais. Mais aujourd'hui, là, quand vous regardez en arrière, vous avez fait du jumelage, par exemple, avec Cuba. Oui. Comment c'est venu cette idée, ce projet?
Tout simplement parce que je ne connaissais pas la Caraïbe. Et un jour, avec l'évolution que nous avons, le travail que j'ai fait au Conseil Général, la préfecture, tout cela, il y avait, je dirais, une réunion à Santiago de Cuba sur l'eau de la Caraïbe. Et pourquoi? Parce que Cuba souffrait beaucoup, parce que les canalisations étaient vieilles, usées, ouais. Partaient par exemple 1000 litres à la Sierra Maestra, 10 litres partaient arriver de l'autre côté. Donc, ils nous ont demandé de si nous pouvions venir pour travailler ensemble. Et la ville du Lamantin, une ville de plus grand territoire communal, où feu Alphonse Jean-Joseph a mis en place les réseaux d'eau, tout ça, c'était un exemple. Et nous sommes partis là-bas, et j'ai suivi pendant 2 jours ce symposium, en quelque sorte. Et puis, j'ai fait une intervention avec ma jeune traductrice, pour ne pas la nommer, Manuela Yung-Yung, et le maire de Santiago, il est resté ébahi, et il m'a invité le soir à la maison du protocole à Santiago de Cuba. Nous avons été, on a échangé, on a discuté, et on s'est vu des possibilités de rapprochement.
Ouais.
Et puis là, il est parti, il a été remplacé par Nicolas Carbonel, et c'est là nous avons signé la lettre d'intention de coopération avec les deux villes.
Ah, c'est comme ça que c'est né,
tout ça. Comme ça c'est venu, nous avons travaillé ensemble, etc. Et après, ce fut Haïti, nous avons travaillé avec Sainte-Lucie, et bientôt ce sera aussi avec Dominique, parce que je vous dis, la Caraïbe, cette terre qui nous unit, nous sommes restés trop longtemps dans cette méconnaissance-là. Mm-hmm. Et aujourd'hui, la coopération, on a emmené la médecine, le sport, ouais. La linguistique, et aujourd'hui, important, le diabète. Ici, à la Martinique, lorsque vous avez un diabète mal soigné, on vous coupe une jambe. Mais à Cuba, non.
Non.
J'ai vu, on a fait la description du pied diabétique, etc. J'ai organisé tout de suite une délégation pour venir à la Martinique travailler avec l'hôpital Pierre-Zobda-Kittmann. Et très prochainement, la démonstration a été faite qu'il y a des médicaments pour sauver les hommes de l'amputation. Et très prochainement, il y a une délégation qui viendra, qui va partir à Santiago de Cuba pour travailler avec les hommes. Et nous avons travaillé dans la biodiversité, tout ce que vous voulez, etc. C'est magnifique.
Donc, même à l'échelle du Lamantin, vous avez pu faire profiter la Martinique entière de cette collaboration, finalement.
Absolument, absolument.
Alors, quand vous regardez en arrière, Monsieur Samo, ce long parcours, là, maintenant, vous avez le temps peut-être de jeter un œil, de regarder un peu de l'rétroviseur. Ça vous arrive d'y penser?
Je crois que le travail que j'ai fait, absolument, je ne peux l'oublier. Ouais. Mais je n'ai pas fait moi seul. J'ai une équipe d'hommes et de femmes qui a travaillé avec moi, une équipe qui m'a fait confiance. Et aujourd'hui, je pars par la grande porte. Ce n'est personne qui m'a demandé de partir. Ouais. Mais j'ai pensé qu'aujourd'hui, où le monde politique est en train de stagner, et puis au lieu de voir les choses avec acuité, avec un partage des idées, chacun fait son chemin, etc., et nous sommes en train de perdre du temps. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons à la Martinique des jeunes bien formés, des jeunes capables de relever le défi. Et c'est la raison pour laquelle personne n'a empêché d'aller jusqu'en 2020. Non, mais je m'arrête en 2018. C'est pour permettre à cette équipe qui a travaillé avec moi, que j'ai formée, puisse continuer l'œuvre que nous avons fait ensemble. Voilà la raison de mon départ.
D'accord. En regard sur la Martinique d'aujourd'hui, vous avez vu évoluer ce pays. Qu'est-ce qui vous vient en tête, là, maintenant?
Je crois que nous avons des anciens qui ne faisaient pas partie de ma vision politique. Mais ils ont travaillé malgré tout. Ils ont travaillé à une époque où le respect existait, la délinquance n'existait presque pas. Et puis, à l'époque, il y avait aussi le service militaire obligatoire qui faisait que nous avions, la jeunesse martiniquaise, de ceux de ma génération et un peu plus loin, avait pris une forme certaine responsabilité. Mais aujourd'hui, où ceci n'existe pas, les travaux, les emplois, voilà ce que je voulais dire, les emplois n'existent pas, ou n'existent pas comme il faut pour répondre aux besoins de la jeunesse, mais nous avons une jeunesse formée très formés, qui peuvent pointer les volets. Et comme il n'y a rien à faire, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des repas, des départs sans retour. Et nous avons un pays qui vieillit parce que les parents sont là, et très souvent abandonnés, et nous assistons à la chute d'une génération. C'est grave. Très grave. Et ça échappe à beaucoup de politiciens qui ont des certaines responsabilités. Ça me désole.
Vous avez de l'espoir quand même?
Oui, parce que la jeunesse martiniquaise, à un certain moment, ça ne peut pas durer. Ça ne peut plus durer. Personne ne peut s'arroger d'être Mathusalem ou autre. À un certain moment, il faut dire, faisons donc la place à ces jeunes qui sont là, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a énormément.
Puisqu'on parle des jeunes, quelles qualités il faut avoir, Monsieur Samo, pour je veux pas dire la recette pour réussir, mais la recette pour être utile.
La première, il faut avoir la foi, se fixer des objectifs et toujours se dire l'un a besoin de l'autre et ceci dans le respect des uns et des autres, parce que nous avons un peu ce respect qui est en train de disparaître et cette solidarité qui a fait ses preuves dans les années passées, cette solidarité aujourd'hui a fait la place à la rogne, au mépris, au je m'en foutisme, et je dirais même des gens qui deviennent blasés et qui oublient qui sont dans une société aujourd'hui qu'il faut sauvegarder. Comment sauvegarder cette société? La solidarité, le respect de l'autre, même si nous avons des idées politiques contraires. Mais tous ensemble devons dire, comme font les Réunionnais, la Martinique d'abord. Voilà ce qui me disait là.
Alors, vous n'êtes plus maire maintenant, mais vous êtes toujours conseiller.
Alors,
municipal.
Ça a été une demande de mon successeur. Mm-hmm. Puisque nous avons parlé de coopération, il me dit, monsieur le maire, à l'époque, monsieur le maire, vous êtes le père de la coopération, et j'aimerais que vous gardiez ce portefeuille-là. Je lui répondis tout simplement, je te remercie, mais je ne ferai rien sans ton autorité. Et je ne veux pas de bureau à la mairie du Lamantin.
D'accord, pas de bureau.
Pas de bureau à la mairie du Lamantin, il va avoir un bureau ailleurs. Mmh. Ailleurs, mais pas à la mairie.
D'accord. Donc, vous serez toujours actif, vous avez déjà certainement...
Je vais toujours apporter ma contribution, à condition de ne pas outrepasser mon caractère de conseiller municipal.
D'autres projets, peut-être, Monsieur Samo, à côté de ça?
Des projets, il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup.
Des projets, il y en a beaucoup. Alors, les projets que je vous dis, c'est plutôt familial.
Oui.
J'ai trois filles qui m'ont donné 6 petits-enfants. Et les 2 aînés de ces petits-enfants m'ont donné 3 arrière-petits-enfants. Et là, le projet, j'ai travaillé, ça fait plus de 20 ans à Cuba, je ne connais pas Cuba. Mm-hmm. Je vais partir avec mon épouse, on va en famille, on va découvrir Cuba. Et aussi, nous partions, nous avons l'habitude de faire quelques petites croisières.
Ouais.
Bon, ben, je vais reprendre cette chose. Et puis, j'aime taquiner le boucher. J'ai mon bateau, j'ai 17 canaches pêches chez moi, avec mes amis, reprendrai.
Et ah ben d'accord.
Pour me faire, cette vie, comment on appelle ça? Il y a une espèce de vie où on s'en fout.
Là, vous allez un peu flâner.
Absolument.
Et peut-être rattraper. Je suppose que la vie politique a demandé beaucoup par rapport à la famille, les enfants.
Absolument. Donc, absolument. Et ce ne fut pas un long fleuve tranquille. Mais il faut avoir le tempérament.
Ouais, je suppose. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de cet aspect. C'est-à-dire que peut-être que beaucoup veulent peut-être le mandat, mais c'est vrai qu'après, il faut pouvoir porter toutes
mais
les conséquences qu'il y aura
avec. Absolument. Mais comme il m'a demandé mon successeur, j'aimerais que tu sois derrière la porte entrouverte. Si jamais j'ai besoin de toi, bah, c'est toi, Julie, de toute façon. Je l'ai fait pour toi. Entoure-toi de gens capables, des gens sérieux, des gens respectueux. Et il est là, que le Lamantin continue à servir d'exemple.
Ben voilà, je crois que c'est sur ces quelques mots que nous allons nous quitter, Monsieur Samo. Ça a été très vite, hein, c'est vrai. C'est vrai qu'il nous faudrait encore peut-être 2 bonnes heures pour bien rentrer dans tout cela. Le Lamantin, une ville qui est toujours dans votre cœur de toute façon, et vous êtes encore là, vous êtes là de toute façon.
Je termine en vous disant, ce n'est pas un adieu, mais un au revoir pour d'autres causes, pour d'autres projets.
D'accord. Ben, on va se terminer sur ces mots. Merci d'être venu nous parler, Monsieur Samo, nous parler un petit peu de vous, de votre intimité quand même. Hein. Ce n'est pas souvent. Et je suppose que la population, le regard qu'ils ont eu au départ vous concernant, ben, ils l'ont certainement conservé. Moi, j'ai retenu une chose et pourtant, c'est pas la plus mauvaise finalement. Le maçon qui a déposé la brique et qui tient encore toujours.
Oui.
C'est vrai. Moi, je retiens ce mot. Merci à vous.
Merci.
Et à très bientôt.
Merci et à bientôt.
Regard sur l'actu, le samedi à 11h10, tous les 15 jours sur Radio Sud-Est. Regard sur l'actu, des invités, un décryptage, des commentaires sur l'info, locale, nationale et internationale. Regard sur l'actu, ce samedi à 11h10 sur Radio Sud-Est et rediffusé le dimanche à 12h.